Donc, dès qu'on a réglé la question technique, je vais passer la parole à Claire Diedrich, qui est professeure d'éthologie à l'université, à l'école vétérinaire de Namur, et qui est aussi présidente du Conseil du bien-être wallon, donc en Belgique.
Bonjour à tous. Donc, comme Anne-Claire Gagnon vous l'a dit, je suis enseignante en éthologie en l'université de Namur. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est en tant que présidente du Conseil wallon du bien-être animal. Donc, c'est en ce titre-là que je m'exprime devant vous aujourd'hui. Alors, je viens vous faire état de la situation belge en matière de législation féline. Et pour ce faire, même si l'écran n'est pas très visible, il faut que je vous explique l'organisation de la législation belge comme elle l'était et comme elle est devenue, parce qu'en fait, vous verrez que ce sera quand même compréhensible, même si je sais que pour un petit pays, on est extrêmement compliqué en matière de législation. Enfin, complexe, on va dire complexe, pas compliqué. C'est aussi pour vous montrer combien une législation, quand elle se met en place, elle doit se faire progressivement. Et puis, si une réforme de l'État se glisse dans la procédure, ça peut perturber l'ensemble. Donc, jusqu'à 2015, la législation concernant le bien-être animal était de niveau national. Chez nous, on appelle ça fédéral. Et donc, il existait au sein de l'État belge un conseil du bien-être animal et il était de niveau fédéral. Et ce conseil du bien-être avait pour base une loi. Donc, le bien-être, c'est comme vous l'avez dit, pas si récent que ça. Au moins, d'un point de vue législatif, depuis 1986, il existe en Belgique une loi qu'on a appelée de la protection et du bien-être des animaux. Et comme c'était au niveau national, c'était des arrêtés royaux et ministériels qui en fixaient les modalités de fonctionnement. Et parmi ceux-là, il y en avait un qui indiquait comment se composait le Conseil du bien-être, quels étaient les représentants qui siégeaient au sein de ce Conseil du bien-être animal, et puis qui désignait les membres qui allaient officier au sein de ce Conseil du bien-être animal fédéral. Alors c'est quand même une structure particulière, ce Conseil du bien-être, parce qu'il rassemble autour de la même table deux secteurs opposés, ou que tout apparemment pourrait opposer, qui sont d'une part les sociétés de protection animale, et d'autre part, les utilisateurs des animaux, qu'ils soient éleveurs, qu'ils soient commerçants. Et aussi, on intègre des représentants de l'ordre des vétérinaires, de la société civile également. Et le travail du Conseil est organisé avec un bureau fait de 4 scientifiques, dont leurs activités en recherche bien-être animal sont reconnues, et ce bureau assure le quotidien des travaux du Conseil et vise à coordonner les activités du Conseil. Le but de ce Conseil étant de remettre des avis au ministre qui a le bien-être animal dans ses fonctions. Et donc, ce n'est pas coercitif. On essaye de s'entendre autour de la table, de formuler des avis qu'on veut consensuels, sauf avis minoritaires qui viennent, malgré tout, quand ils existent, déforcer l'avis global. Donc on essaye, autant que faire se peut, d'être tous d'accord sur ce qui est écrit. Et chacun y va de ses positions d'origine et puis progressivement fait des compromis pour qu'on puisse s'entendre. Alors, comment fonctionne-t-on ? Le ministre qui a le bien-être dans ses attributions pose une question ou interpelle le Conseil du bien-être sur un point particulier. Le bureau coordonne, reçoit l'avis et réfléchit à comment répondre à la demande. Peut organiser, si c'est nécessaire, un groupe de travail parce qu'il considère qu'au sein du Conseil, la représentativité n'est pas complète pour le sujet particulier. On construit un état des lieux de la connaissance sur le sujet. On peut aussi s'informer dans les autres pays de comment la législation et comment la problématique a été abordée ou résolue en Europe. Et puis, on formule un avis qui remonte au bureau avant d'être validé par le Conseil et transmis au ministre, tant que le ministre ne l'a pas reçu. Et on doit encore attendre 30 jours avant de considérer qu'on puisse en parler en dehors. Donc jusque-là, les travaux sont confidentiels et on ne peut pas s'en servir pour aller faire pression par presse interposée ou auprès du ministre de manière privée. Donc voilà un peu tous les sujets qui ont été traités de 2006 à 2016. Et vous pourrez voir qu'on a parlé de sujets très vastes comme du bien-être des animaux en prairie, de la coupe de la queue chez les moutons, de l'hébergement des lapins, des dauphins dans les delphinariums, de la commercialisation des chiens. Et on s'est quand même arrêté aussi sur la problématique des chats errants et des chats dans les refuges. Et ça, ça date de 2009 déjà. 8 ans d'espace, enfin d'intervalle par rapport à aujourd'hui. Et puis il se fait que notre Belgique s'est trouvée à faire face à une réforme de l'État, la sixième du genre, qui s'est mise en œuvre en janvier 2015. Et une réforme de l'État implique une réorganisation des matières gérées par l'État, soit fédérale, ou qu'ils perdent cette fonction, cette attribution, et qu'elle se voit redistribuée au sein d'entités qui lui sont inférieures en volume, si vous voulez, en surface. Et donc, le bien-être animal s'est retrouvé parmi les matières dites régionalisées. Et donc, vous avez une ligne ici qui coupe la Belgique en deux. Ben, au nord, on a la région flamande. Au sud, la région wallonne. Et là, autour, la région bruxelloise. Donc, résultat, on se retrouve avec une matière qui n'a plus de Conseil du bien-être fédéral, qui n'a plus un seul ministre fédéral, mais bien trois ministres régionaux et trois conseils du bien-être régionaux, avec chacun ses sensibilités propres en matière de législation et même aussi de production animale. Par exemple, il y a plus d'élevage porcin, hors sol et aviaire dans le nord du pays qu'il y en a dans le sud. Alors, tout ça pour vous situer le contexte géopolitique belge, et là-dessus se greffe le projet législation féline. Donc, quand le Conseil wallon du bien-être animal s'est vu constitué, il a toujours la même loi bien-être animal comme base, mais ce sont des arrêtés du gouvernement wallon qui vont prendre acte de son mode de fonctionnement. Et donc, pour autant, j'étais vice-présidente du Conseil fédéral du bien-être animal. Je suis depuis juillet 2015 présidente du Conseil wallon du bien-être animal. Donc c'est dans ce titre-là que je viens vous faire l'histoire de ce point concernant la législation féline. Et donc l'état des lieux de la problématique, on vous l'a exposé, je pense, de par la situation dans les refuges, l'exposé auquel j'ai assisté en début d'après-midi. Et donc la difficulté, c'est de pouvoir gérer la population des chats, puisqu'on doit faire face à des chats errants, qu'on a défini comme étant des animaux parce qu'on avait bien en tête ce qu'on allait mettre en place, un chat errant étant un animal non identifié et qu'on retrouve sur la voie publique. Donc ce n'est pas un chat sauvage, mais c'est bien celui qui est défini là, avec aussi un surnombre dans les refuges. Et à l'époque, c'était surtout les refuges qui se faisaient entendre pour faire état d'une problématique. Voilà les derniers chiffres qui ont pu être récoltés avant la régionalisation, puisqu'en 2014, la régionalisation était en cours, et donc il n'y a pas eu de statistiques à ce moment-là. Donc en 2013, les 119 refuges belges qui ont répondu au sondage des autorités ont fait état d'un recueil de plus de 32 000 chats, parmi lesquels plus d'un tiers a dû être euthanasié. À la différence de la France, en Belgique, il n'existe pas de fourrière. Donc il n'y a pas d'organisme qui rassemble et qui est un lieu d'attente, si j'ai bien compris, pendant 8 jours, les animaux qui sont sur la voie publique en attente de retrouver leur propriétaire. Donc ça n'existe pas, cette entité fourrière, cette structure n'existe pas chez nous, on a uniquement des refuges. Et donc il peut y avoir, dans le cadre d'intervention par la police ou d'animaux trouvés, des accords entre le bourgmestre, l'équivalent du maire dans vos communes, qui a des accords, des conventions avec l'un ou l'autre refuge, qui reçoit un subside de la part du bourgmestre pour faire fonctionner, ou en tout cas pour pouvoir héberger un certain nombre d'animaux qu'on viendrait lui déposer par le biais des autorités des communes. Et donc, il faut prendre des mesures à divers niveaux, non seulement pour les animaux, pour les félins eux-mêmes et leur bien-être, pour les espèces qui subissent la prédation de ces animaux-là, et aussi pour, dans un point de vue de santé publique, pour la transmission d'éventuelles maladies du chat à l'homme. Et donc, on a fait le constat d'un besoin de contrôle du nombre de chats sur la voie publique, ou en tout cas autour de l'homme, via le contrôle de la reproduction de ces animaux, avec le vœu pieux, autant le dire tout de suite, de réduire à zéro la population des chats errants. Et vous verrez un peu plus loin que ce n'est pas un plan qui est envisageable dans l'immédiat du moins, et je vous expliquerai en deux mots pourquoi. Mais donc, ça faisait partie des intentions, diminuer le nombre de chats disponibles, ou en tout cas circulants, et en réduire le nombre parmi ceux qui sont sans propriétaire et non identifiés sur la voie publique. Pour ce faire, on a essayé, comme vous l'avez mentionné, de mener des campagnes de sensibilisation et de stériliser les chats. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un agent communal de la ville dans laquelle je travaille, qui piégeait les chats. Il m'a dit qu'il se faisait insulter par la population dans certains cas, parce qu'on pensait qu'il allait piéger les chats pour les euthanasier, alors que son travail, après avoir identifié les endroits dans la ville où il y avait des chats errants, son travail consistait à aller piéger ces chats pour qu'ils soient stérilisés, pour être réimplantés ou remis à l'endroit de capture pour que ces chats y restent et occupent les lieux. Donc les résultats sont limités parce qu'il y a un problème lié notamment au nombre de chats qu'il faudrait stériliser pour avoir effectivement un contrôle sur le nombre de chats qui viendraient à naître à l'avenir. Par exemple, sur cette simulation, vous pouvez voir que si on ne fait aucune régulation, c'est la ligne noire, vous avez une augmentation en 10 ans du nombre d'animaux. Si vous castrer les mâles à raison de 65%, c'est la ligne bleue foncée, vous voyez que ça n'a quasi pas d'effet sur la population. Si vous castrez 20%, c'est pareil. Si vous castrez les femelles à raison de 20%, vous êtes ici, à 50% là, et il faudrait castrer 65% des individus pour arriver à une diminution substantielle de la population. Donc ça demande un travail de longue haleine et un travail soutenu. On ne peut pas se contenter de faire une seule campagne de stérilisation localisée et considérer que le problème est résolu, parce que du moment que vous êtes intervenu sur, la proportion, en espérant que vous ayez touché tous les chats de la zone qui vous intéresse, il faut encore partir du principe qu'aucun autre chat supplémentaire ne viendra alimenter votre population et ne risque d'être susceptible de mettre au monde des chatons qui viendraient réaugmenter l'ensemble. Donc, la conclusion à laquelle nous sommes arrivés était que de rendre obligatoire la stérilisation des chats domestiques qui ne seraient pas destinés à la reproduction. Donc, pour ce faire, pouvoir identifier les chats, ça semblait obligatoire. Ça permet de distinguer le chat qui a un propriétaire d'un chat dit errant, donc non identifié, sans propriétaire, pouvoir retrouver son chat si jamais il avait fugué. En ce qui concerne la stérilisation précoce, techniquement, d'un point de vue vétérinaire, il est possible de stériliser des chatons de 8 semaines. C'est techniquement faisable, ce n'est pas dans nos cultures, ni en France, ni en Belgique. Sauf les vétérinaires qui le pratiquent de manière routinière vous diront que ça ne pose pas de problème. Aux USA, c'est très fréquent, ou c'est même routinier de pouvoir le faire à un très jeune âge, mais on n'a pas été éduqué, et moi non plus, je n'ai pas été éduqué à le faire si jeune. Par contre, afin de soutenir les vétérinaires belges dans leur action et de pouvoir les sensibiliser à l'efficacité de cette intervention, l'État belge, à l'époque fédérale, a financé un projet de recherche qu'il a nommé, comme vous voyez là, et qui a été confié à Nathalie Porters, et qui n'a travaillé qu'avec des chatons de refuge, où elle a établi que l'âge de la gonadectomie qu'elle pratiquait Avant l'âge de 12 semaines et même à l'âge de 8 semaines, les chatons avaient 700 grammes dans les deux sexes, n'avaient pas d'effet, d'un point de vue comportemental, n'avaient pas d'effet sur le nombre moyen des éventuels problèmes de comportement que les chats pourraient développer ultérieurement. Et je précise bien que son travail, qui était étalé sur 4 années, a permis de suivre les chatons qu'elle avait castrés via des questionnaires aux propriétaires sur 2 ans d'intervalle. Donc elle a un recul de 2 ans par rapport au développement de ces animaux. Et donc, il est techniquement possible, dès l'âge de 8 semaines, de pouvoir... d'une part identifiée, oui, et stériliser des chats. Donc, d'un point de vue fédéral, en 2012, un arrêté royal a été publié qui faisait état d'un plan étalé, c'est pour ça qu'on l'a appelé pluriannuel, d'un programme progressif étalé pour atteindre la stérilisation des chats domestiques. Et donc cet étalement a démarré depuis septembre 2012 dans une première étape où, comme chez vous, tous les chats placés en refuge doivent être identifiés, enregistrés, mais aussi stérilisés. Et ça s'est fait aussi progressivement dans les refuges. On s'est d'abord intéressé aux chats adultes, puis 6 mois plus tard, on s'est intéressé aux chats de moins de 6 mois, et puis encore 6 mois plus tard, aux chatons. Dans le même temps, les communes, les maires ont été informées et sollicitées à mettre en place des plans de stérilisation des chats errants. Et je dois préciser d'entrée de jeu que les refuges ont mis en place cette activité sans soutien financier de l'État parce qu'ils étaient informés, parce qu'ils étaient aussi représentés au sein du Conseil du bien-être animal qui avait fait cette proposition d'organisation de manière progressive de la gestion des populations de chats. Il savait qu'à terme, on allait toucher, vous voyez ici en bas, les particuliers. Donc les refuges voulaient bien participer dans une action commune, sachant qu'à terme, on irait plus loin. 2 ans plus tard, on a étendu cette organisation aux éleveurs et chez nous à un profil d'éleveurs particuliers qui sont des éleveurs commerçants. Ce sont les seuls chez nous qui sont autorisés à vendre des animaux qui ne sont pas issus de leur propre élevage. Donc on doit d'abord élever quelques animaux, en tout cas pour les chiens, on doit pouvoir avoir 5 chiennes reproductrices dans un élevage propre pour autoriser à élever d'autres chiens, enfin à vendre d'autres chiens, pardon. Et puis, on avait aussi planifié qu'il était interdit de faire de la publicité pour les chats, et j'en parle au passé. Et puis en 2016, il était prévu aussi de stériliser les chats de particuliers. Mais, comme je vous l'ai expliqué en commençant, on a dû faire face à une régionalisation de la matière bien-être animal, et donc ce sont 3 régions maintenant qui doivent s'entendre pour organiser cette partie-là du plan pluriannuel. Ici en haut, c'était fédéral, tout le monde a été sous le même régime, et à partir d'ici, chaque région s'occupe de mettre ses activités en place. Alors en Wallonie, et vous voyez le temps que ça prend, en avril 2016, on a un arrêté du gouvernement wallon qui impose l'identification et l'enregistrement des animaux. Je vous passe les bases légales qui ont mis cette décision en place, mais donc tout chat avant 12 semaines et au moins avant qu'il ne soit commercialisé, comme tout chat qu'on reçoit à titre gratuit ou qu'on achète, doit être identifié et enregistré. Donc on en est au 28 avril 2016 et avant de vous rejoindre avant-hier, j'ai eu la joie de tomber sur un communiqué du cabinet du ministre qui a le bien-être dans ses attributions en Wallonie, le cabinet du ministre Carlo Di Antonio, et il annonce la mise en application de cette mesure au 1er novembre 2017, donc dans peu de temps. Dans la foulée, il y a donc une banque de données unique. Les 3 régions se sont entendues pour qu'il y ait une banque de données unique, nationale, où tout intervenant, et c'est principalement le vétérinaire qui peut encoder et confirmer par sa carte d'identité et la puce qu'il s'y trouve, les données qui concernent le chat, et par la même occasion, quand ce chat aura été castré, il sera aussi demandé d'y encoder les informations. Mais le ministre Di Antonio, c'est lui. Il a eu aussi des interventions dans la presse où il a dit que la castration des chatons, c'était pas une bonne idée. Ce qui avait été décidé avant lui, le 1er septembre 2014, c'était trop dangereux, je vous lis ce qui est écrit, trop dangereux pour la santé des chatons. Il donne ce communiqué dans la presse en même temps qu'il nous demande à nous, Conseil Wallon du bien-être animal, de donner notre avis sur la disposition fédérale. Nous avions connaissance du projet de recherche Stéricat qui était à ce moment-là terminé et des résultats. Nous avions aussi connaissance de la position du ministre. Nous avions connaissance de sondages auprès des vétérinaires praticiens sur leur ressenti plus favorable en Flandre qu'en Wallonie sur comment mettre cette castration en place. Ce qui fait que le 16 décembre 2016, il y a un arrêté du gouvernement wallon qui est publié concernant alors la stérilisation des chats. Il y a plein de bases légales, mais j'attire votre attention sur le fait que la législation s'est basée aussi sur notre avis du Conseil wallon du bien-être animal. Et là, notre avis était que on proposait de rendre la stérilisation de tous les chats obligatoire, mais nous avions pris l'option de les souhaiter castrer avant l'âge de 6 mois. Justement pour ne pas bloquer la procédure par une contrainte d'âge trop précoce ou jugée trop précoce ou reçue de manière frileuse par les vétérinaires qui devraient le mettre en œuvre. Donc tout chat avant l'âge de 6 mois doit être stérilisé. Alors on laisse du temps aux propriétaires de chats si leur chat est plus vieux que 6 mois. Il a jusque janvier 2019. Et puis, il y a des cas particuliers, si on voyage avec un chat, etc. Mais je ne rentre pas dans ces détails-là. Et on maintient le fait que tout chat d'un refuge doit être stérilisé. Quand on prend une décision telle que celle-là, alors on abroge la législation fédérale qui était au départ la base de cette législation, puisqu'elle est transposée en législation wallonne. Et donc, on applique, et ça aussi, c'est du dernier communiqué du cabinet du ministre que je l'ai extrait, ceci est valable aussi à partir du 1er novembre 2017. Donc, en Belgique, à partir du 1er novembre 2017, tous les chats devront être enregistrés dans la banque de données CatID, et s'ils sont plus jeunes que 6 mois, castrés, s'ils sont plus âgés que 6 mois, à date, eh bien, les propriétaires ont encore un petit peu de temps. En parallèle, le ministre soutient financièrement des campagnes de castration des chats dans les communes. Il l'a entrepris en 2015 et il a réitéré la chose en 2017. Les communes qui ont déjà répondu à son appel en 2015 se voient attribuer en 2017 2500 euros par commune pour leur budget annuel d'intervention sur les chats. Les autres ne reçoivent que 2000 euros, mais bon, 145 communes ont répondu présentes et vous voyez le montant du budget qui est alloué pour cette action au sein des communes. Donc voilà, je veux bien revenir, je veux bien déjà dans l'immédiat répondre aux questions qui me sont posées, mais je veux bien aussi revenir dans, je ne vais pas dire un millénaire, mais dans un prochain temps, quand on aura aussi eu l'occasion de pouvoir chiffrer les effets de ces mesures législatives. Merci.
Madame, j'ai été surpris de lire sur un de vos clichés que la population féline n'avait pas d'incidence écosystémique. Or, il y a quelques années, il y a une étude américaine qui a montré que chaque chat domestique tuait par an une moyenne de 5 oiseaux. Donc, je n'ai pas la connaissance d'une étude équivalente pour la Belgique ni même pour la France, mais si on retient les mêmes ordres de grandeur pour la France, ça fait 5 oiseaux multipliés par 13 millions. C'est quand même une incidence écosystémique, me semble-t-il.
Oui. Oui, c'est, d'abord, c'est comme dit ma collègue, ça concerne les chats qui sortent, mais l'idée de la remarque ici, c'était aussi de dire que ces chats-là n'avaient pas non plus de prédateurs. Et donc, ils existaient, mais personne ne venait les réguler, si ce n'est une surpopulation locale ou un manque de nourriture. Et tant qu'il y a de la nourriture ou des personnes pour les nourrir, ils restent. C'était ça l'idée.
Une autre question ? Non ?
Claire,
merci.
Merci beaucoup. Merci.